Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'écoute de notre magazine. Le printemps s'est annoncé pour le plus grand bonheur des flâneurs et autres amoureux de rêveries à l'air libre. Bientôt la saison des concerts en plein air et autres bonheurs à partager. À l'affiche cette semaine, le groupe Barcanan. On dit Barcanan, j'espère, et pas Barcanan.
Oui, bonjour.
On dit bien Barcanan.
On dit bien Barcanan.
Bon, très bien. Le groupe Barcanan et c'est Guillaume qui nous propose de le découvrir. Pour suivre Gaël et l'exposition consacrée à l'artiste Sylvie Sélig au Mac Lyon. Et Thomas avec la lecture de La machine s'arrête d'Edward Morgan Forster, auteur anglais visionnaire, vous le découvrirez. Restez avec nous jusqu'à la fin, nous terminerons par nos Gédéons, évidemment. Bonjour Guillaume, cette semaine tu nous fais découvrir l'univers du duo Barcanan, on a entendu une voix tout à l'heure pour le lancement, merci d'être tous les deux, tous les trois, que dis-je, sur notre plateau au cœur du bar du théâtre de la Comédie Odéon.
Alors bonjour Barcanan.
Bonjour.
Je vous ai, moi, découvert, il me semble, aux 24 heures du mois, alors je ne sais pas si toi tu étais sur scène, je me souviens de ta voix, voilà, et Yanis, pardon, hein, il me semble, voilà, Yanis et Léo, voilà.
Et
dans deux groupes différents,
groupes, voilà,
c'est ça.
Exactement.
Et moi, j'avais été subjugué par ta voix. Et donc, après, évidemment, je suis allé un peu chercher, gratter. Et aux surprises, il y avait déjà un premier album. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vous venez, ce projet s'est construit comment, puisque, on précise, c'est assez rare dans le métier, vous êtes une fratrie.
Exactement, donc voilà, on est frères, on a cette chance de travailler ensemble. Peut-être qu'on porte une attention à ça, mais nous on en voit beaucoup en fait des fratries finalement dans la musique. Il y a les plus connus, hein, il y a Oasis, il y a First Aid Kids, je crois, qui sont des sœurs. On en voit beaucoup, même à Lyon, il y a Delacour, Black Lilies aussi, donc il y a, c'est quelque chose que nous on voit, mais effectivement, je pense que
Terre
c'est
Noire.
Relativement.
Terre voilà, Noire à Saint-Étienne.
À Saint-Étienne, mais ça reste relativement rare, on va dire en termes de.
Bah, disons qu'Oasis, ça se finit un peu mal.
Voilà.
Donc je ne souhaite pas leur clash.
Bah oui, voilà, pour nous, c'est vraiment ce qu'on ne veut pas suivre. Hein, donc vraiment, on ne suit pas cette voie. On essaye de la suivre artistiquement, mais on ne la suit pas en termes d'entente au sein de la fratrie. Et donc, effectivement, on a commencé, en fait, pendant la pandémie, à écrire des chansons. Et donc finalement, le seul moyen de faire vivre ces chansons, c'était de les enregistrer directement, puisqu'il n'y avait aucun moyen de mettre les pieds sur scène. Et donc on a commencé chez nous, tout simplement, avec un micro, une carte son et un ordinateur et quelques instruments, à enregistrer nos chansons. Mmh. Puis après quelques mois, on a travaillé avec un ingénieur du son et tout ceci est devenu un peu réel. Et on a sorti ce premier disque qui fait 9 titres. Et donc c'était en 2021, en mars 2021.
Voilà, donc
ça fait exactement 3 ans maintenant. Et voilà, et depuis on est ravis de cette aventure. On a pu défendre ces titres sur scène de nombreuses reprises. Progressivement, on crée aussi de nouvelles chansons. Là, on a un EP qui devrait arriver, on pourra en parler.
Donc il faut dire que vous chantez en français. C'est du folk en français, c'est plutôt rare. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, comme tu disais, il y a beaucoup d'artistes. Mais c'est quand même un petit peu... inédit quand même. Et ça, c'est assez touchant. Et notamment, moi, j'aime beaucoup le morceau qui a été clippé, là, avec du banjo, un vrai banjo à 4 cordes, et non pas... 5, pardon.
Donc c'est
je fais une bêtise.
À
voilà, à 5 cordes et pas un banjo lélé, enfin un truc à 6.
Voilà. Voilà. Bah, je vais laisser Yanis répondre là-dessus, puisque c'est un peu son instrument attitré.
Ouais.
Oui, alors je ne suis pas un banjoiste non plus... de formation, mais oui, c'est vrai qu'il y a un côté dans la musique folk américaine, des sonorités qui nous plaisent beaucoup. On écoute beaucoup de musique de ce style. Donc voilà, c'est vrai que le banjo, c'est un peu un emblème de ça. C'est un son qu'on aime bien et puis qui permet aussi une créativité. Et vu que c'est un instrument à accord ouvert, il y a un peu un côté aussi, c'était une porte d'entrée pour un peu se libérer des choses... habituel qu'on connaît avec la guitare, et donc c'était une façon aussi de libérer sa créativité et d'explorer des nouvelles sonorités. Et voilà, et après oui, c'est sûr que le français c'est pas quelque chose auquel on a réfléchi pendant longtemps. C'est plus notre façon à nous de s'exprimer, parce que c'est la langue qu'on connaît. C'est dans cette langue dans laquelle on trouve de la profondeur et une justesse. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez naturel au final.
Alors faut dire que le morceau avec le banjo, ça s'intitule Cueillir.
Ouais.
Alors est-ce que c'est une référence à Carpe Diem, voilà, des choses comme ça, parce que c'est un morceau qui est assez positif, qui est vraiment très lumineux.
Oui, alors pour raconter l'histoire, la genèse de ce titre, ça vient à l'origine d'une... On écoute beaucoup Tim Dup, qui est un artiste qu'on suit, et il a une chanson dans laquelle on entend la voix de son grand-père qui cite un proverbe sicilien qui dit « Plante des fleurs, les autres les cueilleront pour toi ». Et donc cette phrase, elle a beaucoup résonné, elle nous a parlé, et c'est une période aussi où on avait un ami qui allait pas très bien, et on cherchait, moi je cherchais un peu les mots de comment le réconforter, c'était pas évident. Et donc voilà, cette phrase m'est revenue en tête, et il y avait cette idée d'inverser un peu l'idée de dire si ça va pas, il y a aussi des gens qui sont là et avec le temps qui ont planté des choses et qui vont te servir pour toi dans le futur. Voilà, c'est un peu la genèse de ce titre.
D'accord, et ben on va peut-être l'écouter, hein, c'est peut-être l'occasion. On va écouter Cueillir, donc, de Barcanon.
Si les jours sont longs, si tu te perds dans les détours, et si tu cours derrière le temps, si tu attends toujours de
on vient d'écouter Cueillir de Barcanon qui figurera sur le prochain EP, parce que je pense que c'est un titre peut-être important quand même pour vous.
Alors normalement non, c'est vrai que c'est un single, ouais. Mais pour l'instant c'est pas le but, ce sera des tout nouveaux titres pour le prochain.
Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quand même votre lien avec le Québec? Je sais que vous avez tous les deux habité au Québec, et voilà, moi je le dis, vos voix, il y a un côté un petit peu séraphique, enfin franchement les harmonies, c'est vraiment somptueux quoi. Et vous êtes que deux, c'est ça qui est quand même assez fort. Et évidemment, moi je pense à un artiste que j'aime beaucoup, dont j'ai amené ici le disque, même dédicacé, Patrick Watson, voilà. Et puis ça m'a fait penser aussi, alors je ne sais pas si vous connaissez ce groupe folk américain, The Avett Brothers, deux frères, et qui jouent beaucoup de banjo hein, aussi, voilà. Donc voilà, c'est quoi votre rapport au Québec et qu'est-ce que ça a apporté dans votre musique? Parce qu'on sent qu'il y a quand même un truc qui vient de là.
Alors effectivement, on a été bercé par la musique nord-américaine et du fait qu'on chante en français, et c'est vrai que la musique québécoise est très présente dans nos playlists, dans... toute la musique qu'on écoute, déjà parce qu'on a habité tous les deux là-bas à des moments différents, c'est ça qui est aussi amusant, et dans des villes différentes puisque Yannis était à Québec et moi j'étais à Montréal. Vraiment, on a un lien fort avec ce territoire, on a forgé des relations, des amitiés là-bas, et c'est vrai que du coup toute la culture musicale québécoise nous berce énormément, et il y a beaucoup beaucoup d'artistes dont Patrick Watson. Alors c'est un exemple typique que nous vraiment c'est un de nos artistes préférés. Il se trouve qu'il chante souvent en anglais, hein, beaucoup plus souvent, mais il est québécois. Je pense qu'il appartient aussi un peu à toute cette culture-là. Mais voilà, il y a plein d'autres artistes qu'on écoute énormément, dont Safia Nolin par exemple, ou d'autres artistes assez emblématiques du Québec. Et donc, on a eu la chance en septembre dernier d'aller jouer là-bas, et donc c'était un moment génial. On a pu voyager en même temps que faire. On a fait 4 dates dans différentes villes québécoises, c'était vraiment super.
Alors, petit aparté, hier c'était les 24 heures du mot, on s'est croisés à la salle Barbara, oui. Et il y avait des artistes québécois, moi il y en a un que j'ai trouvé extraordinaire, donc Alphonse Bissaillon, mais malheureusement sa date est déjà passée.
Et bah super, bah, j'en profite pour dire qu'il repasse au Chromatique, je sais pas la date exacte, mais c'est dans une semaine ou quelque chose
d'accord,
comme ça.
D'accord, donc
ou dans
le Chromatique 10 jours. Fait des concerts acoustiques, on le répète.
Exactement, voilà. et donc vous avez la chance de revoir Alphonse Bissaillon qui est passé, donc en fait il y a dimanche dernier à la salle Léo Ferré, à la MJC du Vieux-Lyon, et on y était, on a passé un super moment. C'est effectivement c'est un super artiste, donc défendons-le ici sur cette radio.
Très
pour
bien.
Dire allez écouter Alphonse Bissaillon.
Alors tout à l'heure tu as raconté la genèse du titre donc avec Team Dub. Incroyable, vous avez fait la première partie de Team Up la semaine dernière avec À tout bout de champ. Comment ça s'est booké cette histoire? C'est vous qui étiez demandeur, c'est eux qui savaient que quand même.
L'histoire, c'est que il y a que un de nous deux qui a pu prendre des places parce que c'est devenu complet très très vite. Et donc elle savait évidemment l'équipe d'À tout bout de champ qu'on était des grands auditeurs de Team Up, et donc elles nous ont dit vous avez pas de place, on vous a trouvé une place sur scène. Non, évidemment, très très chanceux et très reconnaissant auprès de l'équipe d'À tout bout de champ. Et non, c'était un vrai moment de privilège aussi de rencontre avec un parolier et un artiste qui a quand même une vision qui est assez rare, je trouve, aujourd'hui. Et donc voilà, de pouvoir échanger. Et la preuve, c'est que de faire des pas de côté comme ça en sortant un roman, je trouve que c'est des démarches vraiment très louables, des exemples à suivre. Donc c'était une très belle soirée.
Et puis il faut dire que ce soir, donc, vous jouez à l'épicerie moderne, dans le cadre des Champs de Mars, avec Clara Isée. C'est complet. Parce que Clara Isée, pareil, elle a joué beaucoup dans la région, notamment au Festival Nouvelle Voix. Et voilà, et ça, c'est aussi une grande chance. Et puis, j'avoue qu'on se croise souvent à l'épicerie, puisqu'il me semble que tu es bénévole
l'épicerie.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette date avec Clara Isée? Est-ce que vous écoutiez? Vous la connaissez?
Alors, j'ai fait cette blague parce qu'on a fait on était à la présentation du Festival des Champs de Mars. Et j'avais dit cette phrase. Moi, j'ai découvert par son dernier album, là, Océanovox. Et c'est un album que j'ai beaucoup écouté juste avant qu'on nous propose la date. Donc si vous voulez faire des premières parties, écoutez un album. Mais je connaissais pas beaucoup avant cet album. Et personnellement, je pense que Léo aussi, moi j'ai été très touché. Il y a notamment une musique qui s'appelle Magicienne qui m'a bouleversé. Que j'ai trouvé très très belle. Donc grande chance d'ouvrir pour cet artiste. Et puis la chance aussi qu'on a, c'est que l'épicerie moderne, on est accompagné cette année par cette salle.
Comment s'appelle le dispositif? La raffinerie.
La raffinerie, exactement. Exactement, la raffinerie. Et donc soirée qui va être aussi moins stressante pour nous parce qu'on a eu l'occasion de faire des résidences. Voilà, l'ingénieur du son qui nous suit travaille dans la salle et on a pu prendre le temps pour travailler des aspects qui sont pour nous des groupes émergents assez... assez compliqué parfois. Donc non, voilà, ça va être une très belle soirée ce soir.
Et puis peut-être pour terminer, on annonce une dernière date donc dans la région, au Radiant, au mois de mai. La date exacte,
le 21 mai, un mardi. Exactement.
En première partie, Gilly's Lucky qui revient. Ils se sont wanderisés, enfin je sais pas comment on peut dire, puisque leur titre phare c'est The Wanderers.
Ouais.
Ah, voilà, ils sont échappés, puis là ils reviennent parce qu'ils ont peut-être plus de sous. Il faut revenir. Non, je blague évidemment, parce que ça a été la publicité Kenzo pendant longtemps.
Oui, c'est
et
ça.
Et donc voilà, et donc ils reviennent. Donc ça, c'est aussi une chouette date.
Non, ça va être une très belle date. Venez nous voir, venez voir Gilly's Lucky. Voilà, au club Radiant Bellevue.
Voilà. Et puis on attend votre EP, vous pouvez alors annoncer une date.
Alors on sait pas exactement, on va essayer, il y aura des titres qui vont sortir avant. Je pense que ce sera plus à la rentrée, quand je dis rentrée scolaire, septembre-octobre. Et peut-être des titres avant, c'est en train d'être organisé.
Bien, voilà. Et ben écoutez, à ce soir à l'épicerie moderne, et puis on attend cette EP avec impatience. Merci Barcanon.
Merci beaucoup de votre accueil, merci.
Gaël, pour ta chronique du jour, tu nous proposes l'évocation de l'incroyable travail de Sylvie Seelig, artiste de 83 ans, qui avait retenu l'attention du public lors de la dernière Biennale d'art contemporain avec une œuvre peinte sur toile de plus de 50 mètres. Merci pour ta chronique, nous t'écoutons, on en reparle juste après.
Le MAC Lyon inaugure l'année de ses 40 ans avec une effervescente saison printemps-été consacrée au sujet des collections. En plus du regard croisé des collections de British Council avec celle du MAC Lyon et d'un extrait de la collection Antoine de Galbert qui fera l'objet d'une chronique la semaine prochaine, parlons aujourd'hui de la collection du MAC Lyon récemment enrichie d'une œuvre monumentale de Sylvie Seelig. L'artiste née en 1941 à Nice a été découverte en 2020 sur Instagram et révélée à plus de 80 ans lors de la dernière Biennale d'art de Lyon avec son œuvre State Lace, apatride, qui se déployait sur 50 mètres de long et 2,20 mètres de haut. River of No Return, rivière sans retour, actuellement exposée au premier étage du musée, mesure toujours 2,20 mètres de haut, mais sur une monumentale longueur de 140 mètres. L'artiste aime les grands formats, je la cite. « J'adore faire des grandes toiles, cela me donne une vraie liberté. Je ne suis pas coincée sur quelque chose de petit. J'ai le geste qui est ample, libre, c'est très excitant. » En décembre 2023, River of No Return rentrait dans la collection du MAC Lyon, acquisition rendue possible grâce aux 275 donateurs et donatrices lors d'une opération de crowdfunding. Vaste odyssée de l'art contemporain, River of No Return, réalisé de 2012 à 2015, s'organise comme un long plan séquence. Le musée a relevé le défi de suspendre et rendre visibles les 140 mètres de l'œuvre. Sylvie Seelig elle-même n'avait jamais pu embrasser d'un seul coup d'œil la totalité de sa création. La scénographie offre une déambulation qui serpentine le long de grands rubans onduleux. L'impression est très cinématographique. L'œuvre fait songer à une pellicule qui se déroule. Pellicule pour le côté formel, mais aussi pour le côté narratif, pour le scénario. Sylvie Seelig conte l'histoire de deux garçons, une fille et un chien embarqués sur une rivière, métaphore du déroulement de la vie. Cette peinture fleuve relate la rencontre des protagonistes avec l'art contemporain. Elle dévoile un enchevêtrement de mise en scène comprenant 140 références artistiques. River of No Return vous embarque dans un épique carnet de voyage, un récit en images qui résonne avec les tapisseries narratives du Moyen-Âge comme la tapisserie de Bayeux. Des textes en anglais accompagnent les scènes, mais des livrets avec traduction en français sont mis à disposition dans l'espace d'exposition. J'espère que vous trouverez les 140 références. L'Odyssée débute dans un dédale matérialisé par une icône du Land Art, la sinueuse Spiral Jetty, jetée en spirale, de Robert Smithson. Le bateau des trois personnages s'engouffre au cœur de la spirale, mais un réseau de racines et de branches d'arbres, signé José Pépénone, permet une sorte de passerelle. La navigation peut ainsi continuer. Les protagonistes longent alors des terres sur lesquelles se dressent des colonnes de Daniel Buren, des colonnes sans fin de Constantin Brancusi et des arbres enveloppés de Christo et Jeanne-Claude. Sylvie Selling insiste. C'est la fille qui mène la barque. Ce parti pris féministe fait écho aux œuvres de Louise Bourgeois reprises dans River of No Return. La fameuse sculpture araignée et le dessin La femme maison qui mêle architecture refuge, donc la stabilité du foyer, avec l'architecture piège, le corps contraint. Autour de la femme maison, vit revolte les flowers, fleurs multicolores d'Andy Warhol, tandis que l'arrière-plan révèle des palais célestes d'Ansel Kiefer. L'ampleur du voyage se matérialise dans la reprise de la monumentale carte du monde d'Alighiero Boetti. Maintenue grande ouverte sur la barque, elle semble faire office de voile et enveloppe même la jeune fille. Les deux garçons, dubitatifs, la questionnent. Sais-tu honnêtement où nous allons ? Le monde est si vaste et parfois si fantastique. Non loin du lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, figurent une fameuse nana de Niki de Saint-Phal et une pumpkin citrouille jaune à pois noirs de Yayoi Kusama. Les plus observateurs trouveront également Cindy Sherman, grimée en clown, et tenant un balloon dog, un chien ballon, de Jeff Koons. D'autres apercevront Route bicyclette de Marcel Duchamp. À un moment du récit, plusieurs personnages, qui représentent les artistes, échouent sur une île. On les retrouve après sur un bateau, correspondance avec le radeau de la Méduse de Théodore Géricault. Puis, les artistes jettent tous leurs masques, car, pour Sylvie Selling, beaucoup d'artistes se cachent derrière leur œuvre. Toutes les disciplines artistiques sont abordées, l'architecture, mais encore le design, avec par exemple la chaise coquille de Charles Eames, jusqu'au pionnier de l'art vidéo, Nam June Paik, avec TV Cello, œuvre dans laquelle la violoncelliste Charlotte Moorman jouait d'un violoncelle composé de trois postes de télévision superposés. Le récit de Sylvie Selling convoque aussi Mathieu Barnet, Mauricio Cattelan, Marina Abramovic, Gilbert et Georges, Yumin Jun ou encore une reprise de L'île des morts d'Arnold Böcklin. River of No Return fourmille de clins d'œil, de relectures et de citations artistiques. Prenez le temps. L'œuvre est un voyage, une exploration, une traversée dans l'art contemporain. Si vous ne trouvez pas toutes les citations faites par Sylvie Selling, l'œuvre se conclut par la liste des références. L'exposition River of No Return de Sylvie Selling est programmée au MAC Lyon jusqu'au 7 juillet. Plus d'informations sur mac-lyon.com.
Merci beaucoup Gaëlle. Moi j'ai adoré cette exposition. J'invite chaleureusement nos auditeurs à aller au MAC, à pousser la porte du premier étage en tout cas. Merci beaucoup Gaëlle. Bonjour Thomas, cette semaine, c'est la machine qui occupe toute la place de ce livre visionnaire de l'auteur anglais Edward Morgan Forster. On en parle après, merci pour ta lecture.
Via un vestibule, un ascenseur, un chemin de fer tubulaire, une plateforme, une porte coulissante, c'est en refaisant ainsi en sens inverse toutes les étapes de son départ que Vashti arriva à la chambre de son fils exactement semblable à la sienne. Elle aurait bien pu qualifier cette visite de superflue. Les boutons, les interrupteurs, la table de lecture avec le livre, la température, l'atmosphère, l'éclairage, tout était parfaitement identique. Et si Kuno lui-même, la chair de sa chair, se tenait enfin près d'elle, quel profit pouvait-elle en tirer ? Elle était trop bien éduquée pour lui serrer la main. Tout en détournant les yeux, elle s'adressa à lui. « Me voici. » J'ai fait le voyage le plus épouvantable qui soit et le développement de mon âme en a été grandement retardé. Cela n'en vaut pas la peine, Kuno. Cela n'en vaut pas la peine. Mon temps est trop précieux. La lumière du soleil m'a presque touché et j'ai rencontré les gens les plus grossiers qui soient. Je ne peux rester que quelques minutes. Dis ce que tu as à dire et je devrais ensuite repartir. J'ai été menacé de sans-abrisme, déclara Kuno. Elle le regardait dorénavant. « J'ai été menacé de sans-abrisme et je ne pouvais pas vous dire une telle chose à travers la machine. » Le sans-abrisme est synonyme de mort. La victime est exposée à l'air libre, ce qui la tue. « Je suis allé à l'extérieur depuis la dernière fois que je vous ai parlé. La chose formidable s'est produite et ils m'ont découvert. « Mais pourquoi ne pourrais-tu pas aller à l'extérieur ? » s'exclama-t-elle. « C'est parfaitement légal, parfaitement mécanique de visiter la surface de la Terre. J'ai récemment assisté à une conférence sur la mer. Il n'y a pas d'objection à cela. Il suffit de demander un respirateur et d'obtenir un permis de sortie. Ce n'est pas le genre de choses que font les gens d'esprit et je t'ai supplié de ne pas le faire, mais il n'y a pas d'objection légale à cela. Je n'ai reçu aucun permis de sortie. » Alors comment tu fais pour sortir ? Je me suis frayé mon propre chemin. Ces propos n'avaient aucun sens pour elle, et il dut les répéter. « Ton propre chemin ? » murmura-t-elle. « Mais ce serait mal ! » !»« Pourquoi ?» La question la choqua outre mesure. « Vous commencez à vénérer la machine, » dit-il froidement. « Vous pensez qu'être sorti par mes propres moyens fait de moi un mécréant ? » C'est exactement ce qu'ils ont pensé dans le comité quand ils m'ont menacé de sans-abrisme. À ces mots, elle se mit en colère. « Je ne vénère rien !» s'écria-t-elle. « Je suis bien plus évolué. Je ne te crois pas irréligieux, car il ne reste rien de la religion. Toute la peur et la superstition d'autrefois ont été détruites par la machine. Ce que je voulais seulement te dire, c'est que sortir par tes propres moyens était... D'ailleurs, il n'existe pas d'autre sortie. C'est ce qu'on présume toujours. À l'exception des vomitoires, pour lesquels il faut un permis de sortie, il est impossible de partir. C'est ce que dit le livre. Eh bien, le livre se trompe parce que je suis sorti debout sur mes pieds. Il faut dire que Kuno possédait une certaine force physique. À cette époque, être musclé était mal considéré. Chaque nourrisson était examiné à la naissance et tous ceux qui laissaient augurer une force excessive étaient supprimés. Les philanthropes pouvaient bien protester, cela n'aurait pas été un acte de bienveillance que de laisser vivre un athlète. Il n'aurait jamais été heureux dans le genre de vie auquel la machine l'avait destiné. Il aurait désiré des arbres dans lesquels grimper, des rivières dans lesquelles se baigner, des prairies et des collines auxquelles il aurait pu mesurer son corps. L'homme doit être adapté à son environnement, n'est-ce pas ? À l'aube du monde, les faibles doivent être exposés sur le mont Taygeth. À son crépuscule, les forts subiront l'euthanasie afin que la machine puisse progresser, afin que la machine puisse progresser, afin que la machine puisse progresser éternellement. Vous savez que nous avons perdu le sens de l'espace ? Nous disons « l'espace est annihilé ». Mais ce n'est pas l'espace que nous avons annihilé, c'est le sens de celui-ci. Nous avons perdu une partie de nous-mêmes. J'ai décidé de me la réapproprier et j'ai commencé par arpenter de long en large la plateforme de la voie ferrée située à l'extérieur de ma chambre. J'allais et venais jusqu'à ce que je fusse fatigué et j'ai ainsi retrouvé le sens des mots « proche » et « lointain ». Proche, c'est un lieu où je peux me rendre rapidement à pied et non pas en prenant le train ou le dirigeable. Lointain, c'est un lieu que je ne peux pas rejoindre rapidement à pied. Le vomitoire est lointain, bien que je puisse m'y rendre en 38 secondes en appelant le train. L'homme est la mesure. Ce fut ma première leçon. Les pieds de l'homme sont la mesure de la distance, ses mains la mesure de la propriété, son corps la mesure de tout ce qui est digne d'amour, désirable et fort. Ensuite, je suis allé plus loin. C'est à ce moment-là que je vous ai appelé pour la première fois et que vous avez refusé de venir.
Merci beaucoup, Thomas. Alors, cette lecture, et notamment ce texte, est absolument incroyable. Il a été écrit en 1909. Il nous parle déjà d'une machine qui a pris le pouvoir.
Oui, alors, en plus, ce qui ne ressort pas dans ce court extrait, oui, c'est qu'il y a une place de l'écran qui est totalement envahissante. Ce qui
comme même... 1984, finalement.
Oui, mais 1909.
Oui, oui, comme dans 84, mais...
L'auteur est né au 19e ouais. siècle, en 1879, et on se projette dans un monde qui ressemble étrangement au nôtre, un peu caricaturé, avec quelque chose un peu, des choses un peu désuètes quand il parle de mécréants à un moment donné.
Bien sûr.
Ça sent un peu le Moyen-Âge, mais c'est pas un mot qu'on attendrait en science-fiction classique, mais franchement, c'est ébouriffant et ça donne des frissons, en fait, de se dire que ce texte a plus de 100 ans.
Plus de 100 ans, bien sûr.
Et que ça nous bouscule, en fait, toujours en termes de science-fiction et en même temps de familiarité.
Ouais, c'est voilà. Exactement ça. Edward Morgan Forster n'est pas tout à fait un inconnu. On sait que, notamment, James Ivory l'a adapté au cinéma plusieurs fois. Chambre avec vue, bien sûr. Si Maurice ou encore Retour à Howard End. Donc, on sait, en fait, que cette êtes un auteur qui est extrêmement prolixe.
Oui, tout à fait. En plus, il est mort très âgé. Donc, oui. Bon, c'est vrai qu'il a eu du temps pour produire tout ça. Voilà, le parcours est intéressant et j'en profite aussi pour souligner la maison d'édition. C'est la même que pour celle de Séverine, hein, il y a quelques semaines. Mais je le redis parce que là, c'est les éditions de l'Échappée dans une collection qui est orientée vers un propos sur le progrès, en fait, et qui questionne tout
donc
ça.
Donc, ils choisissent de rééditer, finalement, des textes qui avaient quasiment disparu, d'une certaine manière. Enfin, peut-être pas disparu, mais qui étaient un peu invisibles, en tout cas, dans les librairies actuelles.
Et dans une logique générale, avec un propos très particulier. Voilà.
Ouais, c'est ça. Alors là, bien sûr, la maison d'édition est très, très charmante. C'est un texte qui est assez court et la couverture est verte, assez puissante, avec donc La machine s'arrête de E.M. Forster. Merci beaucoup, Thomas. C'était un plaisir. Nous terminons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Alors Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine est l'exposition Croisement avec la galerie 8+4, Bernard Chevaux Édition chez Manifesta. Vous connaissez le galeriste et éditeur Bernard Chevaux. Il est le frère du commissaire d'exposition dominicain du couvent de la Tourette, Marc Chevaux. Leur grand-oncle maternel, l'architecte Tony Socard, les a instruits à l'art. Dans cette initiation, la visite de la chapelle de Vence, décorée par Henri Matisse, les a particulièrement marqués. Dans l'exposition Croisement figure un exemplaire numéroté du spectaculaire livre Le bois sacré du couvent de la Tourette de Giuseppe Pennone. L'ouvrage comprend la reproduction sur toile de 63 frottages réalisés par l'artiste au couvent de la Tourette. Ce livre à la reliure en bois et acier a été édité par Bernard Chevaux. Éditeur et galeriste, Bernard Chevaux a sélectionné pour Manifesta 20 regards croisés d'artistes au sein de sa galerie 8+4. Nathalie Talek propose « Gimme Shelter, donnez-moi un abri », l'œuvre composée d'un escalier néon positionné dans une vitrine en verre suggère une sorte d'abri idéal, un refuge sensible et minimal, lumineux et transparent. Lionel Sabaté présente sa série Fantasma. L'artiste travaille à partir de rebuts, fragments et fibres textiles. Ces monotypes révèlent des formes hybrides. On croit déceler des bestiaires ou des tubercules qui germineraient. La gaze utilisée offre de saisissants effets de matière qui viennent émousser la frontière entre figuration et abstraction. La forme est également questionnée dans les transformations coupées en diagonale ou en angle droit de Vera Molnar, décédée à l'âge de 99 ans le 7 décembre 2023. Grande pionnière de l'art algorithmique et génératif, elle est actuellement mise à l'honneur au Centre Pompidou dans une exposition programmée jusqu'au 26 août prochain. Chez Manifesta, les toiles et cyanotypes de Vera Molnar sont complétées par de la vaisselle, l'artiste ayant réalisé des assiettes en porcelaine rehaussées de sérigraphie. Claire Trottignon expose des paysages atypiques de Cliff, la falaise, et d'une sérigraphie avec des collages originaux de gravures sur papier. Chez Claire Trottignon, la nature, souvent bleue, prolifère en rhizomes et réseaux. L'œuvre renvoie à l'idée de carte géographique dans laquelle le minéral émerge d'un enchevêtrement de multiples traits et de minutieuses traces. Philippe Favier, Christian L'Hôpital, Bernard Venel, les Sœurs Cheval, mais d'autres artistes, la liste n'est pas exhaustive, complètent la sélection. L'exposition Croisement avec la galerie 8+4 Bernard Chevaux Édition est programmée chez Manifesta jusqu'au 26 avril. Plus d'informations sur manifesta-lyon.fr.
Merci Gaëlle pour ton Gédéon. Alors, cette semaine, Guillaume, avec quoi es-tu venu, toi ?
Alors moi, je viens avec un livre, une bande dessinée et peut-être un peu de musique. Je vous expliquerai un peu plus tard. Donc voilà, je viens avec une bande dessinée qui s'intitule Une survivante d'Auschwitz raconte. Enfin, ça, c'est plutôt le bandeau de France Info, c'est la publicité. Et ça s'appelle Adieu Birkenau. D'accord ? Et ça traite de la vie de Ginette Golinka, donc survivante d'Auschwitz et maman, entre parenthèses, de Richard Kolinka, le batteur de Téléphone. Et donc, cette bande dessinée est vraiment magnifique. Elle est très sobre. Elle a été faite par J.D. Morvan, Victor Matet, Effa, Roger et Sesque. Alors vous voyez, c'est un petit peu compliqué, mais vous irez voir. Et c'est aux éditions Albin Michel. Donc on comprend la vie effectivement terrible de la déportation. Et puis il y a effectivement en parallèle eh bien, la vie au quotidien de Ginette Colinca. Il faut rappeler quand même qu'elle vient de fêter ses 99 ans. Voilà, c'est une belle personne. Et récemment, c'est pour ça que je voulais parler de musique, elle a participé à cette formidable émission qui s'appelle « Les rencontres du Papotin » sur France 2. Et vraiment, je vous conseille d'aller voir ce numéro-là, même si tous les numéros sont exceptionnels. Mais là, ce n'est pas de l'humanité. Ça dégouline, ça suinte, c'est merveilleux d'humanité, puisque Richard, son fils, lui a fait la surprise de venir faire la batterie avec les jeunes autistes qui chantaient « Un autre monde ». Et c'était vraiment, vraiment fantastique. Et d'ailleurs, on salue Claire et Stanislas, deux des journalistes du Papotin, qui sont aussi les co-leaders, même s'ils sont beaucoup plus nombreux, du groupe Astérotypie, dont on a déjà parlé à ce micro. Donc je répète cette bande dessinée, Ginette Colinca, Adieu Birkenau, aux éditions Albin Michel.
Merci beaucoup Guillaume. Cette semaine, je termine en musique avec un groupe en concert au club Transbo, dimanche 24 mars à 19h. Venez écouter la pop anglaise élégante de Shake Shake Go et découvrir la voix envoûtante de la chanteuse Poppy. On écoute un extrait et je vous en parle juste après. Lying by your side, staring at the sky, what's inside your mind? Don't tell me lies. You won't answer why. Formé à Londres avec Poppy, Kylian et Virgile. Les jeunes artistes sans nom, pour leur formation. C'est un jeune fan qui va les baptiser un peu plus tard Check Check Go. Décidés à se faire entendre par tous les moyens, ils se produisent avec leurs compositions dans les rues de Londres et à travers toute l'Angleterre. Animés par cette envie de jouer pour les gens, ils se produisent ainsi à travers toute l'Angleterre. Après des mois, Check Check Go s'inspire de cette expérience pour ses nouvelles compositions. Après un break de plus de 3 ans, Check Check Go revient enfin avec un nouvel album. La création de ses chansons s'avère thérapeutique et cathartique. Au fur et à mesure de ce travail d'écriture, le trio se déleste de son passé pour retrouver son indépendance. Cet album raconte en effet la dualité des sentiments que le groupe a exprimés pendant la composition de cet opus. Des chansons profondes et énergiques composées en Angleterre et des titres beaucoup plus solaires et épurés créés en Espagne. Ce nouvel album reflète cette double nature des morceaux. Finalement, Check Check Go revient à son essence même, à ce qui les anime depuis le début de leur carrière, l'authenticité. Avec cet opus, le groupe retrouve un son organique qui met en valeur les mélodies de la voix magnifique de Poppy. Concert au Club Transbo, dimanche 24 mars à 19h et sur la page de notre émission, le clip évidemment Diamond Eyes. Allez, en attendant de vous retrouver peut-être dans la salle du concert dimanche, je vous dis à la semaine prochaine. Restez curieux. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.